France Inter.
Et c'est l'heure du journal avec Éric Delvaux. Bonjour Éric.
Bonjour Élodie Forêt, bonjour à tous. À la une de ce 13h, l'appel à la paix du pape Léon XIV, déjà de retour à la Loggia, place Saint-Pierre de Rome, 3 jours après son élection. Il vient de prononcer sa première prière dominicale et il y a foule. Nous serons en direct de Rome. L'Ukraine se dit prête à des pourparlers, comme l'a proposé Vladimir Poutine. Tôt ce matin, le président russe veut des négociations directes dès jeudi en Turquie. Y a-t-il un réel espoir de paix ou est-ce que la Russie cherche à gagner du temps? Nous explorerons quelques pistes de réflexion avec notre invité, le géopolitologue Frédéric Ancel. Dans le Var, la nuit dernière, un adolescent est mort dans un accident de minibus. Le chauffeur qui emmenait une équipe de jeunes basketteurs se serait endormi au volant. Et puis nous irons sur le circuit du Mans, départ du Grand Prix de moto dans une heure avec le Français Fabio Quartararo en pole position. Il y aura les bonnes ondes de Sandrine Houdin avec une cagnotte en ligne pour sauver un petit bar de Lille, un estaminet. La patronne Momo croule sous les dettes.
Faut préserver ces endroits-là. Les bistrots d'avant, qu'on vous met pas un ticket, que vous êtes des numéros, puis qu'on vous... Tenez. Donc je veux préserver ce milieu.
Et puis le temps de ce dimanche, Céline Dacosta, l'ambiance sera orageuse cet après-midi.
Oui, sur une grande partie ouest et sud du pays, c'est simple, il ne reste du soleil que près des frontières du Nord.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes.
Inter.
Il était midi précise, place Saint-Pierre de Rome, et pour la première fois, Léon XIV s'est plié au rite de la prière dominicale depuis la loggia centrale de la basilique. Prière du Regina Caeli qui remplace l'Angélus entre la fête de Pâques et celle de Pentecôte. Bruno Duvic, vous êtes en direct de Rome, bonjour.
Bonjour.
C'était aussi l'occasion de faire un peu mieux connaissance avec ce nouveau souverain, car chaque dimanche, cette bénédiction permet au pape de s'exprimer sur l'actualité internationale.
Et celle-ci était particulière, il y avait 100 000 personnes selon les autorités italiennes à Saint-Pierre et autour, quand à midi précise, Léon XIV présenté à la loggia de Saint-Pierre avec cette formule toute simple.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
Voilà, bon dimanche, pas d'étole dorée comme jeudi, le pape est entièrement en blanc, il rappelle que ce dimanche est la journée mondiale de prière pour les vocations, vocations de prêtres et religieuses, l'église en a besoin, dit-il, elle a besoin de forces vives en particulier.
Aux jeunes, je dis, n'ayez pas peur, acceptez l'invitation de l'église et du Christ Seigneur.
Cette bénédiction du dimanche est aussi en effet l'occasion fréquente de commentaires sur l'actualité et la situation internationale. C'est ce que fait Léon XIV.
Nell'odierno scenario drammatico di una terza guerra.
Dans le scénario actuel et dramatique d'une troisième guerre mondiale par fragments, comme l'a souvent fait le pape François, je me tourne vers les grands de ce monde. Et je leur répète l'appel toujours d'actualité, plus jamais la guerre.
Mai più la guerra.
Je porte dans mon cœur les souffrances. Rien, dit le pape, il faut tout faire pour qu'une paix authentique, juste et durable soit possible. Il appelle à un cessez-le-feu et à la libération des otages à Gaza. Voilà pour cette deuxième apparition devant les fidèles. La paix, une fois de plus, au centre du propos, comme jeudi après l'Habemus Papam, et le profil missionnaire de ce pape avec l'appel aux jeunes.
Bruno Duvic, en direct de Rome. Les fidèles sont arrivés parfois tôt ce matin sur cette place Saint-Pierre. 100 000 personnes, disait à l'instant Bruno Duvic. Ambiance parfois festive, avec notamment un jubilé des fanfares. Notre envoyé spécial, Cécile Bidot, a rencontré quelques familles françaises.
C'est unique cette joie de voir toute cette foule, toute cette ferveur, cette joie entre les colonnades là, qui sont les bras de l'église finalement. Oui, ça fait chaud au cœur.
On a du mal à croire qu'il n'y a plus de chrétiens dans le monde.
Donc là, on attend que le pape apparaisse. Ce sera sans doute plus silencieux après.
Certainement, oui.
Ah, le rideau bordeaux de la loggia vient de s'ouvrir et on vient de voir apparaître le pape Léon XIV. Tout en blanc, il salue la foule.
Alléluia. Grazie a tutti voi. Buona domenica a tutti.
Alors, comment vous l'avez vécu ?
Ben, comme un moment de joie et de grâce, son message d'abord pour l'Église, à l'appel des jeunes aux vocations, puis après son message de paix, qui c'est quand même extraordinaire.
Qu'est-ce que vous avez pensé de son style ?
Voilà, il a enlevé tout le décor, il est très simple, très naturel, il est aujourd'hui le pape.
Voilà pour ces propos recueillis par Cécile Bideau, place Saint-Pierre de Rome pour la première messe dominicale de Léon XIV. À la une également le dossier ukrainien, difficile ce matin de percevoir quelles sont les réelles perspectives de paix. On va en parler dans un instant avec notre invité Frédéric Ancel. Retenez que Volodymyr Zelensky estime ce matin que Moscou a commencé à envisager la fin de la guerre. Le président ukrainien commentait la conférence de presse tôt ce matin de Vladimir Poutine qui propose des négociations directes dès jeudi à Istanbul. En revanche, Vladimir Poutine ne dit rien sur le cessez-le-feu de 30 jours que les Européens et l'Ukraine veulent mettre en place dès demain de concert avec les États-Unis. Et il y a quelques minutes sur France Inter, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a remis le cessez-le-feu au centre du jeu.
Nous sommes prêts, dès jeudi prochain, à entrer dans des discussions menant à une paix durable en Ukraine. Mais pour ça, il faut un cessez-le-feu. Parce qu'on ne négocie ni sous les bombes, ni sous les drones. Et la dernière fois qu'on l'a fait, c'était justement à Istanbul et c'était en 2022. Et ça a conduit à l'échec. Et ça n'a pas empêché Vladimir Poutine de perpétrer les massacres de Boutcha qui ont horrifié la planète entière. Donc oui pour la négociation, pour la paix. Mais le cessez-le-feu d'abord.
Voilà, les massacres de Boutcha dont vient de parler Jean-Noël Barrot sont une série de crimes de guerre commis par l'armée russe au début de l'année 2022 à Boutcha, donc au nord de Kiev. Jean-Noël Barrot, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, il y a quelques minutes sur Inter avec Élodie Forêt. En Ukraine donc, Volodymyr Zelensky a répondu ce matin à la proposition de Vladimir Poutine d'ouvrir des négociations directes dès jeudi en Turquie. Isabelle Labéry, vous êtes en direct de Kiev, bonjour.
Bonjour.
Pour Zelensky, c'est oui pour la Turquie, mais il attend d'abord de la Russie qu'elle s'engage à respecter le cessez-le-feu proposé hier.
Oui, parce que si Moscou est bien prêt à négocier, il est en effet inutile de poursuivre la tuerie, ne serait-ce qu'une seule journée supplémentaire. Voilà ce que dit le président ukrainien qui fait de cette trêve complète de 30 jours un préalable impératif aux discussions. Or, Vladimir Poutine, qui n'aime pas les ultimatums, n'a pas une seule fois parlé de ce cessez-le-feu dans son intervention d'hier. C'est à ce stade le point de blocage qui pourrait faire achopper les discussions envisagées à Istanbul. Mais si l'on choisit de regarder le verre à moitié plein, les choses avancent parce que c'est bien la toute première fois depuis le printemps 2022 et l'échec des précédentes négociations à Istanbul que Moscou propose une réelle discussion pour mettre un terme au conflit. Et pour le président ukrainien, c'est un signe positif que le monde entier attendait depuis très longtemps. Il est rare, pour ne pas dire exceptionnel, que Volodymyr Zelensky emploie des termes aussi élogieux à l'endroit du locataire du Kremlin, d'autant que cette nuit, à l'expiration de la trêve de 3 jours décrétée par la Russie, une centaine de drones ont de nouveau pris pour cible les villes ukrainiennes.
Isabelle Labéry en direct de Kiev avec Fabien Gosset. Et bonjour Frédéric Ancel.
Bonjour.
Géopolitologue, maître de conférence à Sciences Po. Des propositions suivies immédiatement de contre-propositions. Est-ce que nous ne sommes pas dans une simple diplomatie de guerre dont il ne faudrait pas attendre grand-chose ? Ou au contraire, y a-t-il de réelles avancées depuis hier ?
Alors, on est dans la diplomatie de guerre, mais on peut en attendre quelque chose. D'abord parce que il faut toujours se souvenir que les diplomates, en général, ont toute leur utilité précisément, soit pour éviter qu'une crise bascule dans l'effusion de sang et dans l'usage massif de la violence, j'ai nommé la guerre, soit parce que nous y sommes. Après tout, si la Première Guerre mondiale s'arrête, c'est parce que les diplomates, en temps de guerre, ont fini par réussir à s'entendre. Et les chefs d'État, bien évidemment, qui les dirigeaient. Donc je pense qu'on peut d'autant plus en attendre quelque chose que Poutine, en dépit de ses rodomontades et de son grand raout diplomatique de ces derniers jours, voit un front gelé depuis pratiquement 2 ans et demi. Autrement dit, lui, dont l'armée est la plus puissante, et de loin en principe, face à l'Ukraine, il ne parvient plus à mener des opérations décisives, d'une part, et d'autre part, son économie est réellement, franchement, très affectée. Donc je pense qu'il en a besoin aussi.
Vladimir Poutine, qui veut reprendre les discussions jeudi, là où elles ont été interrompues en 2022, où en étaient les discussions en 2022 ?
Ah ben alors justement, elles en étaient quand même mieux sur le plan territorial pour l'Ukraine, et pour cause, c'est la raison pour laquelle Zelensky, en bon ou en fin diplomate en quelque sorte, propose cela, c'est-à-dire depuis...
C'est Vladimir Poutine qui propose cela aussi.
Oui, alors Poutine le propose, mais attention, lui, Poutine considère que à l'époque, le pouvoir en place devait de toute façon dégager. Vous voyez, c'est-à-dire que y a du chemin a été fait. Pour résumer, je vous dirais que la Russie, en 3 ans, a perdu stratégiquement, puisque l'objectif de Poutine, c'était de dégager littéralement ce régime, qu'il qualifie toujours d'ailleurs de nazi, et donc via un fantoche de pouvoir dominer l'intégralité de l'Ukraine. Ça, c'est vraiment une défaite stratégique. Mais en revanche, c'est une victoire tactique à laquelle on va assister lorsqu'il y aura, et j'y crois, un cessez-le-feu à court moyen terme, parce que sur le terrain, malgré tout, à la fin des fins, l'armée russe aura croqué environ 20% de territoire ukrainien.
Vous croyez à ce cessez-le-feu de 30 jours? Les sanctions s'aggraveront si le cessez-le-feu n'est pas respecté demain, c'est ce que disent les Européens. Que se passera-t-il la semaine prochaine si Moscou continue d'utiliser les armes contre l'Ukraine?
Ben, il y aura encore plus de sanctions, mais je ne suis pas certain que ce soit ça qui soit déterminant pour Poutine. Je vais vous dire franchement, ce qui est déterminant pour Poutine, c'est ce que va dire et faire Trump, qui commence à perdre patience, et il a dit à plusieurs reprises d'ailleurs, depuis son retour au pouvoir le 20 janvier dernier, et là, il y aurait potentiellement quelque chose de beaucoup plus grave, de beaucoup plus embêtant, parce qu'il ne retrouverait pas, je parle de Poutine, il ne retrouverait peut-être pas ou jamais les conditions extrêmement favorables que lui a proposées ces dernières semaines. Trump, c'est le moins qu'on puisse dire. Et Poutine tient aussi compte de ce qu'a dû lui dire pendant 3 jours Xi Jinping, parce qu'il ne faut jamais oublier que la Chine, aujourd'hui, dispose d'un rapport de force très supérieur à la Russie, notamment sur le plan économique.
Et parce qu'il y a aussi une diplomatie parallèle et beaucoup plus secrète, j'imagine. Négocier jeudi en Turquie, pourquoi le choix de la Turquie ?
Alors, la Turquie est extrêmement duplice et elle y gagne aujourd'hui à l'avoir été. C'est-à-dire qu'elle n'est jamais sortie de l'OTAN, ni même menacée d'ailleurs de sortir de l'OTAN. Et néanmoins, elle a acquis des matériels militaires stratégiques, je pense notamment à des missiles très, très performants, à la Russie. Donc, elle a toujours joué sur les deux côtés en quelque sorte. Et aujourd'hui, ça s'avère payant. Je rappelle que c'est aussi une rente géographique, les fameux détroits, qui lui permettent de jouer ce rôle. Donc, je pense qu'entre la Turquie et le Qatar, si vous voulez, franchement, la Turquie est plus intéressante pour les deux camps.
Merci Frédéric Ancel. J'ajoute le commentaire ce matin du président turc qui s'est entretenu au téléphone avec le président Macron. Recep Tayyip Erdogan estime qu'un tournant historique a été atteint pour mettre fin à cette guerre en Ukraine. Merci beaucoup Frédéric Ancel. Je rappelle votre dernier livre, « La guerre mondiale n'aura pas lieu ». C'est paru chez Odile Jacob.
France Inter, le journal de 13h. Éric Delvaux.
Le chauffeur se serait endormi au volant. Grave accident de minibus la nuit dernière dans le Var. Parmi les 6 passagers d'un club de basket de Monaco, un adolescent de 17 ans est mort. Un autre est grièvement blessé. Manon Derdevé.
Selon le parquet de Draguignan, 2 minibus se suivaient sur l'autoroute A8 en direction de Nice cette nuit, lorsque vers 3h du matin, au niveau du Canet des Morts dans le Var, pour une raison qui reste à déterminer, l'un des 2 véhicules quitte sa trajectoire et fait des tonneaux. La gendarmerie indique que le conducteur s'est endormi avant de perdre le contrôle de son véhicule. Un joueur de 17 ans a perdu la vie, un jeune de 24 ans est en état d'urgence absolue. Les 4 autres personnes à bord, dont le conducteur, sont plus légèrement blessées. Les dépistages alcool et stupéfiants réalisés sur le conducteur se sont révélés négatifs, assure le parquet. Il sera entendu dès que son état le permettra et des expertises sur le véhicule impliqué vont avoir lieu. Dans un communiqué, l'AS Monaco Basket adresse ses condoléances aux familles des victimes. Une minute de silence sera observé ce soir avant la rencontre de championnat de France de basket entre Monaco et Bourg-en-Bresse.
Manon Derdevé. Le pompier volontaire de 39 ans, grièvement blessé hier matin par un automobiliste lors d'un rodéo urbain devant sa caserne d'Évian-les-Bains, est dans le coma. Une tentative d'homicide abjecte, disait hier le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Les Français sont très majoritairement favorables à l'organisation de référendums en France. 83% le souhaitent. C'est un sondage Elabe, publié ce dimanche pour BFM. Les Français aimeraient être consultés, principalement sur les questions d'économie, de retraite et aussi d'immigration. Le championnat du monde de MotoGP a débarqué ce week-end en France sur le circuit du Mans. Le Grand Prix partira dans moins de 3 quarts d'heure avec un engouement spécial autour des 2 pilotes français, Johan Zarco et Fabio Quartararo. Bonjour Guillaume Batin.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Vous êtes en direct du Mans. Fabio Quartararo qui partira en pole position devant les frères Marquez.
Absolument, parce qu'il a battu le record de la piste hier matin, à la surprise générale, même la sienne. Hier, dans la course sprint, il a terminé quatrième et aujourd'hui, pour le Grand Prix, il partira de nouveau en pole position, comme il y a 15 jours en Espagne. Les bons résultats se succèdent. Le Français a désormais une moto à la hauteur de son talent de pilote. Après deux saisons de galère, deux saisons de travail avec ses ingénieurs pour donner de la puissance à son moteur, de l'équilibre au cadre de sa moto, et ses résultats ne font que s'améliorer de Grand Prix en Grand Prix. 15e en Thaïlande pour commencer la saison, 14e en Argentine, 10e aux États-Unis, 7e au Qatar et même 2e, le premier podium de la saison à Jerez. Et forcément, le public français se frotte les mains. Les 300 000 spectateurs sur 3 jours n'ont eu de cesse de l'applaudir, de l'acclamer, de l'encourager pendant les essais. Mais encore ce matin, lors de la parade des pilotes, le champion du monde 2021 a de nouveau les moyens de gagner une course et de défier l'armada Ducati, menée, comme vous le disiez Eric, par l'Espagnol Marc Marquez et son frère Alex, les deux hommes qui domine le classement du championnat du monde. Ça promet une chaude ambiance malgré les nuages menaçants qui annoncent peut-être pour 14h de la pluie et des orages. Et
la pluie à partir de 14h pour le début de la course, peut-être donc. Merci beaucoup Guillaume Batin. Voici les bonnes ondes de Sandrine Houdin, second épisode à Lille, en plein cœur du quartier populaire de Oisem, avec ce SOS lancé par les clients du Cheval Blanc, cet estaminet aussi petit que chaleureux. L'établissement est menacé de fermeture, les clients ont lancé une cagnotte en ligne. La patronne, Monique, que tout le monde appelle Momo, croule sous les dettes. La liquidation judiciaire approche, il faut apporter 140 000 euros avant le 9 juillet. La cagnotte est donc ouverte à tous les Français. Car celui qui risque de trinquer, au final, ce sera le lien social.
Si vous passez par là un dimanche, c'est sûr, vous pouvez pas le louper. Indescriptible. Ça chante, ça danse entre les tables et sur les chaises. Ça boit, ça mange, ça discute, ça rigole. Ça pleure aussi parfois, grâce à elle.
Momo pour les intimes.
Qu'est-ce que vous buvez ?
Il y a un monsieur qui m'a offert un petit muscat, donc je vais faire comme Jeanne Calment. Petit muscat. Au revoir, monsieur dame, bonjour à la Bretagne.
Grand tablier noir jusqu'aux chevilles, casquette rose fluo sur la tête, Momo se lève pour nous faire visiter.
Là, c'est déjà le comptoir, avec Christian, mon frère. Là, c'est tous les photos. Là, c'est ma petite maman.
Un petit coup.
Je finis.
Vous allez trop vite, Monique.
Ouais. Et là, c'est ma cuisine. Gardez ça, du bon maroilles bien de chez nous. Et là, c'est mes bonnes frites. Et c'est moi qui coupe les patates à 50 kilos par semaine. J'aime bien que mes frites soient différentes des autres.
Et si vous aviez un mot, le Cheval Blanc ?
Alors ici, c'est mon deuxième enfant, parce que j'ai un enfant de l'amour qui a déjà 50 ans. Et le Cheval Blanc, c'est mon deuxième enfant, parce que moi, je suis toute seule. Et les clients, c'est mes grands, grands, grands amours, ouais, qui m'appellent mamie. Et je vis pour le Cheval Blanc.
Alors quand Momo a appris pour le tribunal...
Oh, au fond, complètement. Je dormais plus, je pleurais tous les jours. Le médecin m'a même donné un petit cachet pour essayer de me remonter le moral. Et je comprends les gens qui sont à bout et puis qui se foutent une balle dans la tête. Déjà, rien que d'en parler, ça m'émeut. J'ai passé tellement des mauvais moments, je disais peut-être notre dernier dimanche. Qu'est-ce qu'ils vont décider le tribunal ? Parce que c'est ma vie qui s'écroule. Et ça, je veux pas que ça s'écroule. Parce que les gens viennent passer des bons moments ici. J'ai une petite dame âgée qui vient tous les dimanches aller ici. C'est une voisine. Alors tout ça, il faut préserver ces endroits-là. Les bistrots d'avant, qu'on ne trouve plus ailleurs. Qu'on ne vous met pas un ticket, que vous êtes des numéros. Puis qu'on vous... Tenez ! Donc je veux préserver ce lieu. Je vais mourir sur scène comme Dalida. Jusqu'au bout.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire au tribunal ?
Je suis mariée avec le Cheval Blanc, il n'y aura jamais de divorce. Et c'est le meilleur bistrot de France. Ils savent ce qui les attend.
Qui ne saute pas n'est pas cheval blanc ! Qui ne saute pas n'est pas cheval blanc !
Morning. Longue vie au Cheval Blanc.
Longue vie au Cheval Blanc avec cette cagnotte pour sauver cet estaminet de Lille à votre bon cœur dans les bonnes ondes de Sandrine Houdin. Le temps.
La météo avec le baume Hydra Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
La perturbation va gagner du terrain cet après-midi.
Oui, elle se propage un petit peu plus vers l'est avec un ciel orageux entre les côtes de la Manche, les Pyrénées, les côtes méditerranéennes et les Alpes. Des orages parfois forts avec de la grêle et de bonnes rafales de vent. Resteront au sec les régions les plus au nord entre le Nord-Pas-de-Calais et l'Alsace où on aura encore du soleil. Soleil qui sera bien voilé en revanche avec quelques ondées possibles de la Picardie vers le bassin parisien et la Bourgogne où les orages arriveront dans la soirée. Orages qui auront quand même perdu en intensité. Et puis on aura également le retour de quelques éclaircies le long des côtes atlantiques après le passage de la perturbation.
Et les températures restent bien douces.
Oui, la moyenne baisse un petit peu logiquement à l'ouest sous la perturbation avec 15 à 21 degrés. Le ressenti sera même parfois plus bas sous les orages, mais ça reste chaud à l'est avec 19 à 25 degrés.
Les prévisions de Céline Dacosta.